Chapitre 3. Yukiko portait une chemise de soie noire, un pantalon blanc et un béret assorti. Elle traversa le séjour pour dire à son frère
« Je voudrais tant que tu m'accompagnes, Kenji. Ce serait la plus importante de toutes les manifestations pour la paix. »
Il sourit à sa sœur cadette.
« J'aimerais partir avec toi, Yuki, mais je souhaite passer mes deux derniers jours sur Terre auprès de nos parents. »
Leur mère entra avec une grosse valise.
« J'ai fait tes bagages, Yuki, mais je te demande de reconsidérer la question. Hiroshima sera une vraie maison de fous. Selon le Asahi Shimbun, ils attendent 1 million de visiteurs, dont près de la moitié venus de l'étranger.
« Merci, mère !»
dit Yukiko en prenant la valise.
« Satoko et moi descendrons au Hiroshima Prince Hotel. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous téléphonerons chaque matin avant le début des manifestations, et je compte rentrer le lundi après-midi. »
Elle ouvrit le bagage et sortit d'une poche intérieure un bracelet de diamants et une bague ornée d'un saphir.
« Tu devrais laisser ici tous tes bijoux !»
lui conseilla sa mère.
« Ils risquent de tenter tous ces étrangers. »
Yukiko rit et rétorqua.
« Mère, vous ne voyez toujours que le mauvais côté des choses. Nous allons à Hiroshima pour commémorer le 300e anniversaire du largage de la bombe atomique. Notre premier ministre et 3 membres du comité central du CDG seront présents. Le soir, les musiciens les plus célèbres de la planète donneront des concerts. Ce sera pour moi ce que Père appellerait une expérience enrichissante et vous ne pensez qu'au fait qu'on risque de me voler. »
De mon temps, il était impensable que 2 jeunes filles, n'ayant pas terminé leurs études, voyagent sans chaperon.
Nous en avons déjà discuté, mère. J'aurai bientôt 22 ans et l'année prochaine, je vivrai sans doute seul, peut-être à l'étranger. Nous ne sommes plus des enfants, Satoko et moi. Nous savons nous défendre.
Elle regarda sa montre et ajouta
« Mais il faut que je parte. Elle doit déjà m'attendre à la station de métro. »
Elle alla donner un baiser à sa mère, puis étreignit son frère.
« Porte-toi bien, Anisan, »
lui murmura-t-elle à l'oreille.
« Veille sur toi et sur ta charmante épouse. Nous sommes tous fiers de toi. »
Yukiko, plus jeune d'une douzaine d'années que Kenji, n'était âgée que de 4 ans, quand leur père avait été promu directeur de la branche américaine de l'International Robotics. Les Watanabe étaient allés s'installer sur l'autre rive du Pacifique, dans un faubourg de San Francisco, et Kenji, absorbé par sa nouvelle vie et ses cours à l'UCLA, n'avait guère eu le temps de s'intéresser à sa sœur cadette. Leur contact avait été encore plus sporadique depuis que Monsieur et Madame Watanabe étaient retournés au Japon avec leur fille, le laissant poursuivre seul ses études aux États-Unis. Ce fut avec des regrets qu'il la regarda s'éloigner.
« Je vais quitter ce monde, » pensa-t-il, « sans m'être donné la peine de mieux connaître ma propre sœur. »
Il prit conscience que sa mère parlait. Elle marmonnait que sa vie se soldait par un échec, car ses enfants n'avaient aucun respect pour elle et l'abandonnaient. Son fils unique n'avait-il pas épousé une Thaïlandaise avec qui il partirait sur Mars? Et son autre fille, ne lui avait-elle pas donné des petits-fils aussi inintéressants que leur banquier de père?
« À propos de Fumiko, comment se porte-t-elle ? »
demanda Kenji.
« Pourrais-je la voir avec mes nièces avant mon départ ?
Ils viendront tous de Kobe demain soir. Je me demande ce que nous pourrons leur servir à dîner. »
Tatsuo et Fumiko n'ont même pas enseigné à leurs enfants comment utiliser des baguettes. Peux-tu imaginer ça ? Des Japonais qui mangent avec des fourchettes. Il n'y a donc plus rien de sacré ? Nous avons sacrifié notre identité sur l'autel du profit. Comme je le disais à... »
Kenji la pria de l'excuser et se réfugia dans le cabinet de travail de son père. Des photos ornaient les parois, des jalons dans sa vie personnelle et professionnelle. Deux clichés étaient également des souvenirs pour Kenji. Sur l'un, lui et son père exhibaient le trophée que le Country Club décernait au vainqueur du tournoi de golf annuel par équipe père et fils. Sur l'autre, Monsieur Watanabe lui remettait la médaille qu'il avait obtenue en remportant le premier prix du concours académique des collèges de Kyoto. Il se souvint que Toshio Nakamura, le fils d'un ami et associé de son père, avait été second dans ces deux compétitions. On le voyait sur une de ses photos, les sourcils froncés par le dépit.
Qui aurait pu penser qu'il serait un jour au cœur d'un pareil scandale?
Songe à Kenji, en revoyant la manchette, arrestation d'un important PDG d'Osaka, de l'article annonçant son inculpation. Toshio Nakamura, devenu entre-temps vice-président du Tomozawa Hotel Group, avait été accusé, entre autres choses, de corruption et d'esclavagisme. 4 mois plus tard, il était condamné à une très lourde peine, et Kenji en avait été sidéré.
Que lui est-il arrivé?
S'était-il souvent demandé depuis. À 16 ans, il s'était affronté pour l'amour de Keiko Murosawa, et Toshio avait été furieux quand elle avait décidé de sortir avec Kenji. Un matin, il lui avait même adressé des menaces non loin du temple de Ryohanji.
« C'est moi qui aurais épousé Keiko si j'étais resté au Japon », se dit Kenji.
Il regarda le jardin par la fenêtre et la pluie lui rappela une journée pluvieuse de son adolescence. Kenji se rendit chez elle dès que son père lui eut annoncé la nouvelle. Il reconnut un concerto de Chopin lorsqu'il s'engagea dans l'allée de la maison des Murosawa. La mère de Keiko ouvrit la porte et lui dit sèchement
« Elle doit travailler, s'il vous plaît »,
insista l'adolescent.
« C'est très important. »
Madame Murosawa allait refermer le battant quand Keiko aperçut Kenji par la fenêtre et interrompit son exercice pour aller le rejoindre.
« Salut Kenji, que t'arrive-t-il ? » « J'ai quelque chose à te dire. Peux-tu venir te promener avec moi ?»
Madame Murosawa grommela des propos, se rapportant à un récital, mais Keiko réussit à la convaincre de l'autoriser à sortir. Elle prit un parapluie et rejoignit Kenji devant la maison. Dès qu'ils furent hors de vue, elle le prit par le bras et lui demanda
« Alors, qu'as-tu à m'annoncer ? Pas ici. Le cadre ne convient pas. »
Ils se dirigèrent vers la promenade des philosophes, une magnifique allée qui serpentait sur plusieurs kilomètres au bas des collines de l'est de Kyoto. Ce chemin devait sa célébrité à un philosophe du XXe siècle, Nishida Kitaro, qui était censé l'avoir emprunté chaque matin. Il passait devant des monuments aussi connus que le Ginkaku-ji et l'Onen-in. Derrière ce vieux temple bouddhique se nichait un petit cimetière, où Kenji et Keiko avaient découvert les sépultures de l'écrivain Junichiro Tanizaki et du poète Iwao Matsuo. Depuis, c'était leur lieu de rendez-vous préféré. La pluie se mit à tomber avant qu'ils n'atteignent l'Onen-in, et ils se dirigèrent vers une vieille porte au toit de chaume. Au lieu d'entrer dans le temple, ils gravirent les marches du cimetière, mais Kenji ne s'arrêta pas devant la tombe de Tanizaki. Il alla plus haut, vers une autre stèle.
C'est ici qu'a été enterré le docteur Iwao Matsuo,
dit-il en sortant son bloc-notes électronique.
Je voudrais te lire quelques-uns de ses poèmes.
Keiko s'assit et se blottit contre lui alors qu'il récitait 3 textes.
Je terminerai par un haïku que nous devons à un de ses amis. Un matin pluvieux, je suis allé la trouver et lui dire adieu.
Il le récita à nouveau, de mémoire, et la gravité de son expression inquiéta Keiko.
« Ce haïku parle d'une séparation, »
fit-elle doucement.
« Veux-tu me faire comprendre que je n'ai pas le choix? Mon père a été nommé à un poste en Amérique. Nous partirons le mois prochain. »
Une profonde tristesse voila les traits magnifiques de Keiko. Et quand elle leva sur lui ses yeux assombris par le chagrin, Kenji pensa que son cœur allait se briser. Il la serra contre lui. Alors qu'il pleurait sous la pluie fine, il fit le serment de n'aimer qu'elle jusqu'à la fin de ses jours.